avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes comme tous les vendredis. Ce sera la libre antenne, l'occasion pour vous tous de nous interpeller sur l'actualité de votre choix, de revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous savez que tous les sujets nous intéressent. C'est l'occasion de nous parler, par exemple, de l'actualité qui ne fait pas forcément la une de la presse internationale, des sujets qu'on n'a pas forcément abordés cette semaine dans l'émission. Bref, vous avez envie de commenter l'actualité, vous nous appelez et vous lancez le débat sur RFI 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Et n'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux. Mais d'abord, comme tous les jours, vos questions à la rédaction d'RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer, en parlant football, avec Fayala qui est à Conakry en Guinée. Bonjour Fayala.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous avez des questions sur le nouveau patron de l'UEFA.
Justement. Je suis un peu surpris que Alexandre Seferin succède Michel Platini à la tête de l'UEFA. Et donc, je voudrais savoir quel est son parcours et quels sont ses atouts.
Ouais, c'est vrai qu'il est un inconnu du grand public. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes le chef du service des sports d'RFI. Alexander Seferin, il va falloir retenir ce nom. C'est lui qui donc a été choisi pour incarner le renouveau au sein de la Fédération européenne de football. Concrètement, Alejandro, quel est son CV?
Alors, c'est un jeune avocat, spécialiste des affaires criminelles, de 48 ans. Un habile négociateur, il dirige le plus grand cabinet d'avocats de Ljubljana en Slovénie. C'est un passionné de l'Afrique et notamment du Sahara qu'il a traversé 5 fois en voiture ou en moto. Mais par contre, son CV en matière de football, il est proche de zéro. En juin, quand il s'est présenté, personne ne le connaissait dans le milieu. Il n'a jamais été à l'UEFA ni à la FIFA.
Enfin, il est quand même président de la Fédération slovène de football.
Il est président de la Fédération slovène, donc un tout petit pays. Il n'a pas été footballeur comme son prédécesseur Michel Platini. Donc, c'est un parfait inconnu. Alors, il porte beau, on le dit genre idéal, il est élégant, il parle bien, mais peu. On l'a senti quand même très tendu lors de ce congrès de l'UEFA qui a fini par l'élire à une large majorité.
Écrasante majorité, il a obtenu 42 voix sur 55.
Absolument, il a été soutenu à la fois par la plupart des grands pays, sauf l'Angleterre, et évidemment par les petits pays qui sont ravis de voir un des leurs porté à la tête de l'UEFA. Il va conclure le mandat entamé par Michel Platini, c'est-à-dire qu'il n'aura pas un vrai mandat de 4 ans devant lui, mais à peu près la moitié. Donc voilà, c'est une page blanche devant nous. Si ça se trouve, ça va se révéler comme un grand négociateur. Mais la crainte de beaucoup, c'est que ce soit un président faible.
Qu'il n'a pas la carrure, les épaules suffisamment larges pour effectivement...
Il n'a pas les charismes d'un Platini, ni la capacité peut-être à résister à toutes les pressions qu'il va subir. Il y a la pression de l'argent, des grands clubs, de la Russie, des pays scandinaves qui l'ont porté, d'Infantino, le président de la FIFA, dont on le dit proche, voilà.
D'être même le sous-marin d'Infantino.
Voilà, il a dû se défendre de ce genre d'accusation. Oui.
Ouais. Quels sont les chantiers qu'il attend?
Le premier, c'est la réforme de la Ligue des Champions qui a été annoncée quelques jours avant son arrivée. Donc, c'est vraiment une épine dans le pied puisqu'on a réformé la Ligue des Champions de sorte que les grands pays, les 4 principaux pays, à savoir l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre, s'attribue la moitié des places en Ligue des Champions,
4,
à eux tout seuls.
4 places garanties. Hein.
Voilà, à chacun. Donc, ça fait 16 en tout sur 32. Donc, ça laisse 51 autres pays, dont la France, les 16 places restantes. Donc, c'est quelque chose qui passe mal. Mais on voit mal comment il pourrait contester. Plus ou moins, il a admis qu'il n'aura pas les moyens de s'opposer à cette réforme.
Voilà, donc on suivra évidemment de très près chaque pas d'Alexander Seferin. Alejandro Valente, merci beaucoup. On va continuer à parler football. On accueille Olivier Pron du service des sports. Olivier, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Voilà, le micro ouvert, c'est nettement mieux. Des questions sur le Paris Saint-Germain évidemment.
Oui, mais après le réfé, je note que...
Après le réfé. Après le réfé. Toujours après le chef de service, c'est normal. Et arrêtez de râler, Olivier Pron. Mais on aime aussi quand vous râlez un peu. Thibaut, bonjour.
Bonjour, Anne.
Vous êtes au Bénin, soyez le bienvenu.
Merci, Anne.
Allez-y, on vous écoute.
D'accord. Oui, selon moi, le PSG a mal démarré la phase de groupe de la Ligue des Champions en faisant match nul avec Arsenal. Et ma question à ce sujet est celle-ci. Peut-on dire que le départ de Zlatan Ibrahimovic a des conséquences sur les résultats du PSG?
Alors, effectivement, le PSG a dû se contenter d'un match nul, un mardi soir, un partout, face à Arsenal. Thibaut parle de la Ligue des Champions, moi j'ai envie aussi de parler du championnat français. En Ligue 1, le PSG est à la traîne, 7e du classement. On regrette déjà le départ de Zlatan, Olivier Pron?
On peut le regretter, mais la question finalement ne se pose pas. Parce que la réponse est très simple. Avec Unai Emery, le nouvel entraîneur qui a succédé à Laurent Blanc cet été, Zlatan Ibrahimovic ne jouerait pas.
Ah.
Donc, voilà. Merci. Bonjour le Bénin. Bonne journée du côté de Cotonou. Non. En fait, oui, Unai Emery. Pour Unai Emery, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Tous les joueurs doivent être traités, logés à la même enseigne, traités de la même manière. Vous imaginez bien que Zlatan Ibrahimovic, ça n'est pas tout à fait comme ça qu'il l'entend. Donc, oui, sans doute, il ne jouerait pas parce que Unai Emery veut un joueur, finalement, comme Cavani, veut que ses attaquants reviennent derrière, descendent chercher les ballons, viennent défendre. Et sur cela, Edinson Cavani est irréprochable. Le nombre de kilomètres qu'il peut faire par match, c'est juste incroyable.
Oui, après, encore faut-il qu'il marque des buts.
Oui, et ben voilà. Et ben là, le problème, mardi soir, c'est qu'il en a marqué un à sa première occasion, 42 secondes de jeu.
Ah, ça,
et
il, puis a après... il a été très rapide. Hein. Je crois que ça va être le but inscrit le plus rapidement dans l'histoire du PSG en Ligue des Champions.
Exactement. Vous avez bien suivi cette affaire. Eh ben, c'est tout à fait ça. Le problème, c'est que derrière, il a eu 4 occasions énormes et il les a toutes ratées. Mais on sait finalement qu'Edinson Cavani, c'est sa marque de fabrique. Il lui en faut 5 ou 6 pour en marquer une. Alors, ça fait toujours grincer des dents. On rappelle qu'il est arrivé, qu'il a coûté 64 millions d'euros. Mais il a rendu beaucoup de services. Les statistiques en Ligue des Champions d'Edinson Cavani sont bien meilleures en pourcentage comparées à celles d'Ibrahimovic. Edinson Cavani, il a marqué mardi soir son 18e but en 37 matchs, ça veut dire qu'il marque un but tous les deux matchs en Ligue des Champions. Il y a peu d'attaquants qui peuvent en dire autant. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de frustration de la part des spectateurs, des supporters du Paris Saint-Germain. On était au Parc des Princes mardi soir, c'est sûr que, voilà, ouais. On a parfois l'impression que nous, on la mettrait, même vous, Juan, vous pourriez la mettre parfois la balle au fond.
Donc, il vous a convaincu mardi soir, Cavani?
Il ne m'a pas convaincu du tout. Il se procure des occasions, il est toujours frustrant. Ce que je veux dire, c'est que le débat, il est ouvert depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain et il est l'attaquant de pointe. Il n'y en aura pas d'autres avant au moins le mois de janvier. Il y a d'autres attaquants au Paris Saint-Germain, mais lui, il est le numéro 9. Il a toujours été frustré de ne pas avoir cette place-là du temps d'Ibrahimovic. Il l'a maintenant, et ben il faut faire avec. Quant à Zlatan Ibrahimovic, lui, il est dans sa situation préférée à Manchester United. Il reste dans la surface de réparation et il attend que le ballon arrive. Sans doute, mardi, s'il avait été sur le terrain, il en aurait converti 2 ou 3. C'est certain. En cela, il peut manquer au Paris Saint-Germain, mais l'entraîneur a changé et avec cet entraîneur-là, il n'aurait pas joué.
Merci Olivier Pron. Si vous aimez le football, n'oubliez pas cet après-midi Radio Foot International en direct de Ouagadougou, Alejandro Valente.
Eh oui, Annie Gasnier, David Finsel sont à Ouagadougou pour suivre la CAN de foot Maracana, une modalité de football très populaire en Afrique de l'Ouest. Et donc, ils vont tout nous expliquer ce soir dans Radio Foot International.
C'est du football en salle?
Alors, c'est du football qui se joue sur un terrain des Andes. Il n'y a pas de gardien. Ouais. Donc, c'est 6 contre 6, je crois. Et voilà.
Cavani aurait marqué, là.
C'est sûr que pour Cavani, ce serait peut-être une bonne reconversion. En tout cas, on va tout savoir de cette CAN de foot Maracana avec Annie Gasnier tout à l'heure.
Et toute l'équipe de Radio Foot International présente donc dans la capitale du Burkina Faso. Merci à tous les deux, Alejandro Valente et Olivier Pron. Il est 10h19 à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Laïci nous appelle de Séoué. C'est au nord de Cotonou, à 80 km, me dit-on exactement. Bonjour Laïci.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
Merci de nous appeler. Vous avez des questions concernant l'affaire Barroso.
Exactement. Jean-Claude Juncker ouvre une enquête sur son prédécesseur José Manuel Barroso sur sa nomination à la tête de la banque Goldman Sachs. Juan, je voudrais savoir pourquoi une enquête maintenant, 2 mois après l'annonce de José Manuel Barroso à la tête de la banque Goldman Sachs, et quelles sont les sanctions possibles contre José Manuel Barroso?
Alors déjà, première précision là ici, il n'a pas été nommé à la tête de cette banque d'affaires, il a été nommé conseiller, ce qui est quand même un tout petit peu différent. Mais vous avez raison, c'est vrai que cette nomination suscite de vives réactions, de nombreuses voix se sont élevées dès le mois de juillet pour dénoncer ce qu'elle considère comme étant un problème éthique posé par le cas Barroso. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous ce matin de Bratislava où se déroule le sommet de l'Union européenne. Vous suivez au quotidien les questions européennes. Et c'est vrai que le président de la Commission européenne a mis du temps quand même à réagir à cette polémique sur le nouveau poste de son prédécesseur, José Manuel Barroso. Pourquoi a-t-il tant tardé?
Eh bien, c'est pas tellement Barroso.
Ah, on a...
Souvenez-vous, il s'est déroulé deux mois pendant lesquels la crise a pris le pas sur ce que la Commission européenne souhaitait faire au départ. Car la position de la Commission européenne au mois de juillet, où tout le monde n'avait pas commencé à voir cette affaire Barroso, la position de la Commission européenne, quand on lui a posé la question, c'était « Eh bien, nous sommes dans notre droit et M. Barroso est dans son droit. M. Barroso, comme tous les anciens commissaires, il a 18 mois pour nous notifier pendant cette période-là, s'il prend un travail rémunéré ou pas. Et au-delà de ces 18 mois, il fait ce qu'il veut, il n'a même pas besoin de nous prévenir. Ça, c'était la position de départ. Simplement, la polémique, vous le disiez, n'a cessé de gonfler pendant tout l'été. Le Parlement européen, à peu près tous les groupes parlementaires confondus, y compris les amis de M. Barroso du PPE, se sont émus de cette situation. On a senti aussi que ça passait très mal auprès de l'opinion. Et puis aussi, il y a eu un groupe de hauts fonctionnaires européens, anonymes, mais enfin assez identifiables, qui ont publié des communiqués disant qu'ils trouvaient ça scandaleux de la part de leur ancien patron. Voilà. Alors, dans un premier temps, évidemment, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, n'a pas voulu trop charger la barque de son prédécesseur d'abord et de son camarade au sein du Parti populaire européen. Mais ensuite, il a vu que la politique de transparence devait prendre le dessus. Et il a, d'une certaine façon, lâché son prédécesseur lors d'un échange épistolaire avec la médiatrice européenne. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, la morale en politique tente à prendre le pas sur une approche purement juridique que les gens ne comprennent plus.
Effectivement. En tout cas, Emmanuel Barroso, lui, a clarifié sa situation. Il s'est expliqué auprès donc de son successeur. Il me semble, Quentin Dickinson, que ces clarifications maintenant seront étudiées, examinées par un comité d'éthique. Mais enfin, il n'y a aucune raison que Barroso soit contraint de démissionner de cette banque d'affaires Goldman Sachs.
Non, absolument pas. Il n'y a pas de sanctions. Notre auditeur parlait de sanctions. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de base juridique pour cela. Et il n'y a aucun moyen d'intervenir dans un contrat de droit privé entre Goldman Sachs d'une part et le nouvel appointé Barroso d'autre part. Simplement, à la Commission européenne, on a essayé d'arranger les angles en disant « Oui, évidemment, si M. Barroso devait se présenter à la porte d'entrée du bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles, il n'entrerait pas par l'entrée VIP, il ne serait pas traité en ancien président d'institution. Au contraire, il serait traité comme n'importe quel autre lobbyiste. Mais pour l'avenir, ce qui est certain, c'est que des leçons seront tirées. Juncker l'a dit clairement l'autre jour. On va durcir les règles du code de bonne conduite. Et simplement, cela n'aura aucune espèce d'incidence sur le cas de M. Barroso, qui s'en ira donc à Londres. Pantouflé chez Goldman Sachs.
Pantouflé. Goldman Sachs, une banque, rappelons-le, qui a souvent été citée comme l'une des responsables de la crise des subprimes, et une banque qui a mis donc à mal la zone euro durant plusieurs années. Merci beaucoup, Quentin Dickinson. On vous retrouvera évidemment tout au long de la journée pour suivre avec vous le sommet de l'Union européenne qui se déroule aujourd'hui à Bratislava. Il nous reste encore quelques minutes, le temps d'accueillir Célestin, qui est en Côte d'Ivoire. Il est à Yamoussoukro, précisément. Bonjour Célestin.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions concernant le Panama?
Oui, effectivement, le Parlement panaméen a fait une proposition de loi visant à pénaliser les pays qui accusent le Panama d'être un paradis fiscal. Mmh. Je voudrais savoir si le Panama peut appliquer ces sanctions à tous les pays. Ah. Évidemment, les pays les plus puissants, comme par exemple les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc.
Alors c'est vrai que c'est un texte qui peut paraître un peu hallucinant, un texte de loi approuvé à l'unanimité par les députés panaméens, et cette loi prévoit de sanctionner tous les pays qui accusent le Panama d'être un paradis fiscal. Lucie Vatrinet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice des travaux de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires. C'est vrai que le Panama est pointé du doigt depuis plusieurs mois et notamment depuis le scandale des Panama Papers. D'abord, pour vous, le Panama est un paradis fiscal ou pas ?
Oui, le Panama est sans aucun doute un paradis fiscal, notamment parce qu'il, pendant longtemps, il a été un des derniers pays à refuser d'échanger des informations avec d'autres pays. Et alors apparemment, les choses sont en train de bouger hein, depuis le scandale des Panama Papers, mais c'est sûr que c'est une petite île dans laquelle il est très facile d'établir des sociétés écrans, donc des sociétés pour lesquelles vous ne pouvez pas connaître le propriétaire réel, et qui sont des sociétés au cœur de montage financier visant à soit à cacher l'argent au fisc ou à cacher de l'argent d'origine criminelle.
Alors la France a décidé d'inclure le Panama sur sa liste des paradis fiscaux depuis l'affaire des Panama Papers. Plusieurs pays dans le monde ont inscrit ce pays sur cette liste et désormais tous ces pays risquent donc d'être sanctionnés par le Panama ?
Effectivement, mais oui, pour répondre à la question de Célestin, effectivement, ce projet peut être appliqué. Alors c'est vrai que on se demande un peu la stratégie en termes de communication, parce que je doute que cela redore l'image du Panama, mais c'est possible et c'est bien la preuve que malgré ce que l'on entend à l'heure de la mondialisation, les pays peuvent rester souverains dans une certaine mesure.
Ouais.
Après, ce qu'on entend aussi...
Quelle sorte de sanctions prévoit la loi ? On parle de mesures de rétorsion migratoire. Bon, je suis pas sûr que ça fasse paniquer les Français ou les Américains. On parle également, et là ça peut-être être un peu plus compliqué, de droits de douane par exemple plus élevés pour les pays qui accusent le Panama d'être un paradis fiscal.
Les pays, mais aussi en fait et surtout leurs ressortissants et leurs entreprises. Donc c'est là que ça peut jouer un rôle, notamment des taxes plus importantes sur les flux qui entrent et qui sortent, l'exclusion de marchés publics de certaines entreprises. Mais encore une fois, enfin c'est pas comme si ça allait ruiner ça allait ruiner l'économie ou les profits des entreprises françaises, parce que il n'y a pas non plus une économie si florissante au Panama. C'est pas si dangereux que ça. Moi, vraiment, l'analyse que j'en tire, c'est que c'est une mesure pour un peu politique pour, en interne, pour dire au Panama, ben, voyez, on se laisse pas malmener de la sorte. Mais le Panama est quand même en négociation à côté pour justement sortir de ces listes et faire les efforts nécessaires pour ne plus apparaître sur les listes des pays, dont la France. Donc, je pense qu'il ne faut pas... C'est une annonce importante et qui choque, mais qui ne va pas avoir des conséquences importantes oui. sur les pays en question. Et d'après l'OCDE, ça ne change rien au fait que le Panama est, depuis les Panama Papers, beaucoup plus ouvert aux discussions pour revenir un peu à des échanges plus transparents avec les autres pays. Donc,
ouais. Enfin, signalons tout de même que le fameux cabinet d'avocats Mossack Fonseca, dont on a beaucoup parlé, cabinet qui est au cœur du scandale des Panama Papers, est toujours ouvert. Donc bon, y a-t-il réellement une volonté de transparence ? On suivra ça évidemment dans les prochains mois. Lucie Vatrinet, merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir répondu à Célestin. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice des travaux de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires. D'autres questions à la rédaction lundi. D'ici là, évidemment, vous nous appelez. Le standard reste ouvert. On attend toutes vos questions. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, sans oublier évidemment de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission, c'est de vous avoir en direct avec nous et de vous donner la parole. À suivre dans un instant le point complet sur l'actualité et on reviendra dans 10 minutes pour la libre antenne. A tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé. Claire Edon.